Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Aurélia Tazi a parcouru 600 km à pied en traversant l'Atlas marocain jusqu'aux dunes du Sahara avec ses trois filles de 4, 6 et 8 ans. De son aventure est né le documentaire « Dis maman, c'est encore loin le désert ?» J'ai rencontré Aurélia chez elle, à Marrakech, à l'endroit même où est née cette folle idée de traverser les montagnes, seule avec ses trois filles. Moi, ce que j'aime dans le voyage, c'est les rencontres. Et toi ?
Moi aussi, j'adore.
Alors là, je viens d'en faire une. Je suis arrivée dans un lieu qui est complètement incroyable, paradisiaque, avec moi, Aurélia.
Je m'appelle Aurélia, je vais avoir 42 ans très bientôt, ce mois-ci, et je suis maman de trois enfants. Mon mari est marocain, donc nous on est une famille franco-marocaine. J'habite au Maroc depuis 14 ans et à Marrakech depuis une dizaine d'années, au sud de Marrakech, à 7 km, dans un lieu très beau, face à la montagne, l'Atlas, qui est en face de nous là.
On en parlera après de l'Atlas et de ce projet complètement incroyable que tu as réalisé. Mais avant de ça, c'est ton parcours de voyageuse qui va m'intéresser. Donc t'es arrivée au Maroc, pourquoi, comment ? Est-ce que tu savais que t'allais habiter ici, que t'allais vivre ici ? Qu'est-ce qui fait dans une vie qu'on se pose quelque part et qu'on s'y installe d'une manière un peu plus durable quand on est dans cette dynamique du mouvement et du voyage ?
J'aime bien dire que je suis venue au Maroc pour rencontrer mes enfants et mon mari. Et c'est vrai que c'est toujours les voyages qui nous choisissent en fait. Ça se fait comme ça. Donc, tu veux que je te parle des voyages d'avant ou de l'arrivée au Maroc ou...
Ouais, peut-être ton parcours de voyageuse avant de me parler de l'arrivée au Maroc, hein, parce que je crois que tu es quelqu'un qui a très rapidement, très jeune, pris la route.
C'est vrai, j'ai toujours aimé bourlinguer. Bah, une fois mon bac en poche, à 17 ans, je suis partie vivre aux États-Unis pendant un an. Et quelques années plus tard, à partir de 20 ans, sac à dos au Chili. Voilà, je suis allée faire un stage là-bas dans le cadre de mes études et de Santiago, j'ai pris un billet jusqu'à la frontière péruvienne. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie de bourlingueuse, sac à dos, et que je me suis rendu compte que c'était une telle école en fait de la vie. Et j'ai adoré ce côté aventure, ne pas savoir où j'allais dormir le lendemain. Et du coup, à ce moment-là, j'ai découvert les miracles qui se déroulent chaque jour sous les pieds des vagabonds et des voyageurs. Ça, c'est assez magique en termes de rencontres et de galères qui se résolvent sans arrêt avec des choses encore plus belles que ce qu'on avait pensé. Et après, j'ai continué à voyager aux Philippines, Inde, Nouvelle-Zélande. J'ai habité dans le Pacifique aussi pendant un an et demi sur une petite île à Wallis. Wallis et Futuna. Et dans d'autres pays. Après, j'ai effectivement débarqué au Maroc. J'ai rencontré Sadek, qui est devenu mon mari, et j'ai eu la chance que lui aussi, il était voyageur. Et donc même quand on a commencé à avoir des enfants, on a continué à voyager, voilà.
Tu parles de petite magie qui opère quand on est en voyage. Comment tu l'expliques, cette magie ? D'où elle vient, selon toi ? Quels sont les mots que tu emploierais pour définir cette magie, effectivement, qui peuple le quotidien du voyageur ?
Alors, il y a une femme extraordinaire que j'ai rencontrée cette année, qui est aventurière et écrivaine, qui s'appelle Blanche de Richemont. Et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le dictionnaire de la joie ». Et dedans, elle appelle ça « La grâce du vagabond ». J'aime bien utiliser ces mots-là. Et comment je l'explique ? Ça, c'est les cadeaux de la vie, c'est la magie de la route. Mais comment je l'explique ? C'est s'abandonner peut-être, oser faire confiance à la vie, à l'univers, ne pas avoir peur, oser les rencontres, et savoir que on est protégé ou guidé dans ces moments-là.
Donc ça, c'est le cocktail pour laisser entrer la magie dans sa vie, ne pas avoir peur et se laisser guider par ses intuitions.
Et puis surtout, c'est écouter son cœur, parce qu'en fait, c'est ça. Au fond de nous, on a quand même toujours une petite voix qui sait. Et je pense qu'on peut appeler ça l'âme sauvage aussi. Et en fait, c'est vraiment écouter ce que nous dit notre âme sauvage. Et du coup, si on lui donne ce qu'elle a envie, donc un peu cet inconnu, ces rencontres, cette aventure, on a le retour tout de suite, je crois, en cadeau, en fait. Parce qu'elle est nourrie, on est nourrie. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça.
Toi, tu es issue d'une famille de parents voyageurs ou pas du tout ?
Alors, un peu voyageur, mais pas dans le même style que moi. Quoique mon papa, lui, il est assez quand même aventurier. Il a bien aimé monter le Mont Blanc, le Kilimanjaro, des choses comme ça. Ils nous ont toujours emmenés en voyage, mais pas du tout en itinérance, nécessairement. Mais quand même, ils nous ont toujours... Dès que j'étais jeune, en fait, ils m'ont envoyé à l'étranger, dans des familles. Donc c'est quand même grâce à eux. Et puis eux, ils ont toujours accueilli beaucoup de gens à la maison qui venaient de différentes nationalités, différents pays. Voilà. Ma maman a voyagé quand elle était plus jeune parce qu'à l'époque, elle a travaillé à la Lufthansa et donc elles étaient les premières à pouvoir faire des voyages loin, au Pérou, au Japon. Mais c'est surtout la chance qu'eux, en fait, ils m'ont effectivement envoyé des petites dans des familles. Donc j'ai pris un peu cette indépendance et cette autonomie comme ça. Mais c'est vrai que j'aime bien être au milieu des gens, en fait. Et donc j'aime bien les transports en commun. J'aime bien quand des fois ça devient un peu la galère, qu'il faut attendre. Parce qu'il y a toujours des moments magiques et c'est généralement les rencontres avec les gens. Et là, c'est toujours incroyable. Ça me touche dans le monde entier. C'est leur sourire, c'est les échanges, c'est la générosité, c'est les cadeaux. Des petites choses qui nous touchent énormément, en fait. Ça, je l'ai vécu dans le monde entier, partout, tout le temps. Mon degré d'aventure, il est là. C'est de me retrouver dans un quartier de Delhi à 5h du matin, à chercher une auberge de jeunesse ou un hôtel. Dès que j'ai mon sac sur le dos, je me sens dans mon élément, en fait. J'aime bien.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage,
regarde d'ailleurs,
chemin le plus court pour se découvrir soi.
T'as fait quoi comme études?
Moi j'ai fait des études, un DUT en communication d'entreprise. Et après j'ai fait 2 ans de plus en management international et marketing. Surtout parce qu'il y avait 2 fois 6 mois à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai fait le Chili et après les Philippines. Et j'ai beaucoup aimé d'être aux Philippines aussi.
Mais se pose la question quand on grandit de qu'est-ce qu'on fait dans sa vie pour pouvoir assurer son quotidien. Donc toi, ton métier, tu te l'es créé parce qu'aujourd'hui, je ne te vois pas du tout dans cet univers-là de la communication et du commerce et du marketing.
Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai tout de suite pris la branche dès même la troisième, au Chili d'ailleurs. J'ai tout de suite dit, OK, moi, ça va être dans le milieu culturel. Donc après, par exemple, quand j'étais aux Philippines, j'ai travaillé à l'Institut français, à l'ambassade, au département culturel. Et quand je suis venue au Maroc, c'était ça aussi. Je suis venue à l'Institut français pour tout ce qui était la partie culturelle de l'Institut français, où je faisais toutes les relations presse et la com. Mais je savais que c'était juste provisoire, que moi, ma vie, c'était pas dans un bureau. Donc après, comment on fait? On peut faire plein de choses. Moi, j'ai géré et ouvert un café pendant un certain temps. Surtout, je me suis beaucoup occupée de mes enfants et de leur donner une enfance sauvage. Et ma grande passion pendant longtemps aussi, c'était de faire pousser des plantes. Enfin, des plantes, de faire pousser des légumes, pas des plantes. C'est mon mari qui fait pousser des plantes. Et tu veux que je te parle de mon nouveau métier?
Non, non, on en parlera plus tard. Une enfance sauvage, ça me plaît, ça, poser ces mots-là. Qu'est-ce que c'est qu'une enfance sauvage? Avoir envie de donner à ses enfants une enfance sauvage.
Mais moi, j'étais une mère très sauvage, spontanément, dans le sens où... sauvage, dans le sens... pour moi, c'était naturel, en fait, que mes enfants naissent à la maison, par exemple. C'était naturel et évident de les allaiter pendant très, 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 très longtemps, de dormir avec eux. Et à côté de ça, de leur laisser beaucoup d'autonomie, en fait. De leur laisser rapidement monter, descendre des escaliers eux-mêmes, choisir leurs habits très jeunes, se laver. Donc, on a la chance d'habiter sur un beau lieu de quelques hectares, une pépinière, et les laisser rapidement bourlinguer, expérimenter, de voyager avec eux en itinérance. Évidemment, voilà, ils sont portés dans une écharpe, ils sont allaités. Donc, chaque jour, un autre endroit, ce n'est pas un problème. De laisser beaucoup jouer dans la terre. C'est ça l'enfance sauvage en fait.
Donc se relier, se connecter au vivant, au monde du sauvage, au monde du vivant finalement, au monde naturel.
Voilà, c'est ça. Et en tant que maman, être très proche d'eux, comme une maman lionne avec ses petits lionceaux, mais à d'autres moments aussi, donner un coup de patte s'il faut, voilà. Et puis après, leur donner l'autonomie d'un autre côté. Et voilà. Et maintenant, je suis moins une maman qui passe des heures et des heures à jouer avec mes enfants. C'est pas ça vraiment mon truc. Je préfère, je fais des choses avec eux, voyager, plutôt lire. Je suis pas quelqu'un qui va naturellement vers les enfants quand ils ont cet âge-là ou les miens à passer des heures à jouer. Mais j'aime bien plutôt organiser pour eux et leur donner, là vous pouvez faire un truc créatif, là vous pouvez faire ça. Mais les 3 premières années de vie, j'étais naturellement très, 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 très présente.
Aurélia, alors avant de te rencontrer, je te connaissais déjà parce que je t'ai vu à la télévision. Alors le projet, c'était marrant, c'était une émission qui passait un soir sur France 5, il y a 1 an de ça. Et le sujet, c'était « On va voir le désert ». C'était quoi le titre, c'est quoi ?«
Maman, c'est encore loin le désert ».«
Maman, c'est encore loin le désert ». Donc le titre m'avait interpellé et j'avais regardé ce que c'était. C'était une jeune femme qui vivait au Maroc, qui un jour s'était dit « Tiens, derrière les montagnes, il y a le désert, je vais emmener mes 3 enfants à la traversée de l'Atlas marocain pour aller jouer dans le sable ».
C'est ça, c'est tout à fait ça.
Et j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça fascinant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Raconte-nous un petit peu ce projet complètement barré finalement. Parce que l'Atlas, effectivement, quand on regarde, là, quand on tourne le regard vers la droite, on voit les montagnes qui sont à une centaine de kilomètres d'ici. Derrière, cette chaîne de l'Atlas qui monte à quand même 3-4 000 mètres, les dunes du Sahara. Et toi, tu t'es dit, tiens, je vais partir avec 3 enfants, donc 2, 4, 6 ans, c'est ça ?
4, 6, 8.
4, 6, 8 pour aller dans le désert.
C'est ça, en fait, c'était un moment de ma vie, voilà, entre-temps j'avais monté un café, je l'avais fermé, j'avais pas encore un autre projet, et j'habite dans un lieu certes vraiment très très beau, pour lequel j'ai beaucoup de gratitude chaque jour, mais quand même j'avais vraiment cette envie d'explorer le monde, et je m'étais dit depuis toujours qu'un jour je ferais une marche au long cours, parce que j'aime beaucoup la marche aussi, mais je sais pas, j'avais un peu oublié ce projet, donc c'est vrai qu'on voyageait avec les enfants, mais à un moment il y a un petit quelque chose qui a commencé à me manquer, hein. Et voilà, dans une nuit d'insomnie, j'ai pensé à ça et je me suis réveillée le lendemain matin. Je me suis dit, je vais le faire, c'est ça. J'ai vu la montagne, j'ai vu l'Atlas et je n'avais jamais été dans le désert, mes filles non plus, qui sont de l'autre côté donc. Et j'ai dit, mais voilà, c'est ça ce que je vais faire en fait. Je vais faire une marche, une longue marche. Je vais trouver une mule et comme je suis une maman, je ne vais pas partir sans mes filles. Puisque donc, c'est une époque où je ne voulais pas laisser mes filles seules trop longtemps, ce qui n'est plus un problème actuellement, mais à l'époque. Et puis bien sûr, j'avais aussi envie de transmettre quelque chose avec mes filles, donc... Donc il m'a fallu beaucoup de courage pour en parler à mon mari d'abord et à l'entourage, parce que je pense qu'en fait, le plus grand pas en fait, je pense que tout le monde sait qu'il faut vivre nos rêves et tout ça, mais je crois que le courage, c'est pas quand on vit le rêve qu'on vit, parce que généralement si on est prêt à le vivre, c'est qu'on a quand même la capacité. Mais je pense que ce qui est vraiment un peu difficile, c'est d'oser le dire au monde et aux autres. Mais donc je suis allée voir Sadek et je lui ai dit en fait j'ai une idée, j'aimerais partir avec les filles comme ça, marcher. Et il m'a dit ouais mais super, mais t'emmènes pas les enfants. Mais bien sûr il me connaît, il sait de quoi je suis capable et au fur et à mesure il y a eu plusieurs tests et plusieurs expériences et il a compris évidemment que ça allait pas se faire sans les enfants et que ça allait être vraiment chouette pour tout le monde. Donc j'ai eu la chance énorme que mon mari m'ouvre la porte en fait hein, et qu'il me soutienne et qu'il comprenne que c'était vital pour moi dans ma vie à ce moment-là de faire ça.
Et tes enfants, parce que là c'était un choix qui a finalement été imposé à tes enfants ou ils l'ont choisi, comment ça s'est passé ?
Non, ils l'ont quand même choisi, mais c'est vrai que j'ai expliqué, j'ai dit que c'était mon rêve, j'ai expliqué comment ça allait être, ce que ça allait être un an avant. Donc ils ont le temps d'en entendre parler et tout ça. Et Lila qui avait 8 ans à l'époque, parce que j'ai dit que ça allait durer 2 mois, elle a dit bon peut-être que je le fais pas toujours. Et pour moi, je me suis dit, ça ne va pas marcher. Si... C'est-à-dire que peut-être que son papa viendra la prendre un petit peu et qu'elle fera moitié-moitié. Mais rapidement, elle s'est dit, en fait, c'est vraiment une occasion, il faut que je le fasse. Et la chance, en fait, qu'il y avait quelque chose de concret et tangible, c'est qu'il y avait le désert à l'arrivée et qu'elles n'avaient jamais été et qu'on marchait pour aller au désert. Donc ça donnait tout son sens. Et après, Lila, c'est une marcheuse. Les deux petites, il était prévu, et c'est ce qui s'est passé, qu'elles soient sur la mule, ce qui est quand même physique, mais ce n'est pas aussi physique que marcher. Et après, comme elles ont eu cet enfant sauvage dont on a parlé, le fait d'être dormir sous la tente, de rencontrer les gens, pour elles, c'était quand même cadeau. C'était un truc, elles se réjouissaient. Ce côté un peu précaire, simple, de ce genre de voyage, où effectivement, on n'a pas de douche, pas de toilette, on mange selon et on dort sous tente, c'est plutôt quelque chose qu'elles apprécient. Et elles se sont vraiment impliquées dans le projet. Et je crois que pour elles, le pendant et le après, c'est un énorme cadeau pour elles. C'est beaucoup, beaucoup de joie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alors j'aimerais, donc là c'est radio, donc tu recrées un petit peu une dimension visuelle d'une journée de marche. Comment ça se passe ? Que tu nous emmènes avec toi et tes 3 filles là-haut dans les montagnes de l'Atlas. Tu nous expliques où est-ce qu'on se réveille, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, comment va être rythmée la journée, où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va trouver de l'eau pour boire, où est-ce qu'on va se reposer, comment ça va se passer. Emmène-nous avec toi, fais-nous vivre ou essaie de nous faire revivre une journée dans l'Atlas marocain avec tes 3 enfants.
Alors on se réveille sous la tente à 2000 mètres d'altitude, au milieu de ces montagnes très belles, assez secs et arides dans ces moments-là et ces endroits-là. Avec pas mal de caillasses, des petits sentiers, éventuellement une piste un peu plus large qui passe pour amener juste une route à un village. Et il y a toujours la guirlande qui est là, la guirlande colorée, hein, Parce que nous, on aime beaucoup s'habiller très coloré, assez bohème. On aime bien avoir notre style. Donc même quand on marche, en fait, on a des super bonnes chaussures de marche, mais on est quasiment tout le temps en robe ou en jupe dans notre état d'esprit. Et à côté de la tente, il y a toujours la guirlande avec ses fanions colorés. Et on fait un petit feu de camp pour préparer un thé le matin. Et il y a notre mule qui est là, Gypsy, une mule blanche. Et on se nourrit d'eau et d'air, de bonté et d'air pur. Et en fait, on se shoot à l'aventure, en fait. et au thé des herbes de l'Atlas, hein, c'est ça. Et à la fumée du feu, pour préciser.
Et l'eau vient d'où ?
Et l'eau, donc, elle est assez rare, mais on finit quand même par en trouver. Hein. Donc, soit dans les villages qu'on fréquente, soit sur des petites rivières ou des petites sources. Et donc on se réveille, on prend un petit déjeuner et après vient les 2 heures quotidiennes, 1h30 à 2 heures quotidiennes, surtout pour moi de remballer la tente, les sacs de couchage, pacter, tout rassembler toutes les affaires qui nous ont servi pour bivouaquer, le matériel de tournage puisque donc il y avait aussi le film, et charger la mule. Au fur et à mesure je deviens meilleure chaque jour, donc seule j'ai toute une technique pour mettre d'abord la grande selle sous forme de tunnel qu'on met sur la mule, après il y a 2 panières qu'il faut hisser dessus et après il y a toute une technique, un assemblage pour équilibrer les 2 panières et on charge les panières, après on met un tapis par dessus, après on met des sangles autour de tout ça. Et après, on met les filles et au bout du compte, 1h30 plus tard, on est prêt à partir. Donc, on marche avec des... J'ai un GPS qui me donne les coordonnées, mais qui ne marche pas tous les jours parce que je n'ai pas toujours les batteries, en fait. C'est surtout les batteries pour la caméra. Et j'ai des cartes au 50 millième qui m'indiquent à peu près un itinéraire que j'avais vaguement défini avec des amis guides avant, que je suis plus ou moins selon que je me perds ou pas. Voilà. Et des fois, je rencontre des bergers sur la route. Qui nous a flotté dans une théière toute noire, remplie de souis, avec qui on s'échange des petites paroles, des regards, qui m'indiquent le chemin éventuellement. Et ça continue comme ça. On ne sait pas où on va dormir le soir, mais on sait vers où on veut aller, en fait. Après, quelle direction. Et soit on dort chez l'habitant, après, le soir. Donc le repas de midi, ça peut être généralement plutôt un style mode pique-nique. Et le soir, après, soit ça va nouveau être un bivouac, soit c'est dans une maison qui nous a accueillis, un village, des portes qui se sont ouvertes. Et alors là, c'est un bon repas chaud le soir chez quelqu'un.
Mais quand c'est en mode bivouac, il faut trouver un endroit plat pour poser la tente. C'est quand même très rocailleux, très sec, c'est pas forcément confortable. On dort dehors dans une tente à 2000 mètres d'altitude.
Alors on a toujours bien dormi. Hein. Mais des fois, ça prenait un peu de temps de trouver effectivement le terrain plat. Et puis il y a un soir aussi où j'ai eu l'idée de rester sur le col. Et j'ai pas pensé qu'il y allait avoir peut-être une petite tempête de vent au milieu de la nuit, mais comme j'avais du très bon matériel, donc la tente a bien tenu. Et j'ai toujours fini par trouver des endroits, et généralement en plus des endroits magnifiques. Et ça, c'est vraiment le cadeau du voyageur, en fait. C'est cette chance inouïe d'être nourri par la beauté de notre planète et d'être carrément seul au monde, en fait, dans ces endroits sublimes. Et ça, c'est vraiment le cadeau aussi pour moi. Chaque soir, on s'est endormi heureux, en fait.
Mais ça, avec ton regard d'adulte, ta conscience adulte, tu peux l'apprécier. Mais les enfants, comment est-ce qu'eux ont vécu cette marche aussi longue ?
Eh bien, eux, encore une fois, tout devient... un énorme rocher devient un cheval ou un dromadaire. Ils sont ravis de ramasser du bois. Alors, je leur laisse gérer le briquet, donc ils font le feu eux-mêmes. Je crois que ça, ils apprécient. Après, des fois, il y a des journées un peu plus longues. Des fois, c'est dur de monter un col. Et voilà, on se pousse. J'essaie de les encourager comme je peux. Des fois, avec douceur. Des fois, avec fermeté. Mais après, il y a toujours la joie d'être ensemble. Et puis, le côté bivouac, c'est vraiment quelque chose que les filles adorent. Elles adorent se retrouver sous la tente. Il y a quand même, je crois, les enfants, naturellement, je pense qu'ils sont quand même touchés par ça. Ce côté un peu exotique. Et puis, il y a l'animal à s'occuper, le chien... Voilà, après, moi, je prenais plus en moi-même la logistique de la tente, tout remballer. Donc, ils pouvaient jouer. Pour eux, les enfants, ils aiment quand même beaucoup jouer de proche de la nature. Oui. Et puis cette quête qu'on va vers le désert. Donc, aussi, à la fin, ils avaient le feu, ils étaient animés par ça. Et puis, je n'ai pas hésité à porter les petites dans le porte-bébé sur le dos pour quand elles étaient trop fatiguées d'être dans la mule. Donc, moi, voilà, j'étais vraiment en bonne condition physique. Je suis en bonne condition physique, en fait. J'ai cette chance. Et du coup, je les ai souvent, même à 4 ans et 6 ans, portées sur mon dos. Donc monter des cols en soufflant parce que j'en avais une des deux sur le dos. Et voilà, et chacun a eu ses hauts et ses bas, ses petits chagrins. Mais pour personne, il a été question d'abandonner, en fait, à aucun moment. Il y a quand même, tous les soirs, on s'est quand même endormi heureuse, en fait. Voilà.
Maman, est-ce que c'est encore loin le désert ? Donc le départ, c'est Marrakech. Pour arriver où ça ? Et combien de temps ça a pris ?
Alors on arrive dans les dunes de Lihoudi, qui sont les premières dunes, en fait, qu'il y a au sud de Zagora. Donc c'est entre Zagora et Mhamid. Et nous, on a marché sur 600 kilomètres. Avec beaucoup de cols quand même et de dénivelé. Donc à un moment, pendant 3 semaines, on était entre 2000 et 2500 mètres. Et ça nous a pris 2 mois. Et toute la fin, les deux dernières semaines, c'est vraiment c'est la vallée du Drac. Donc là, on n'est plus du tout en montagne. Et on est tombé par hasard sur une grosse vague de chaleur. Donc c'était très très chaud, donc on ne pouvait plus marcher la journée. Mais j'étais entre-temps devenue experte pour charger et décharger ma mule. Donc je le faisais deux fois par jour. Ça veut dire que je me levais très tôt et on marchait à partir de 5h du matin. C'était au printemps, donc le jour se levait. De 5h à 8h, 8-9h. Après, on s'arrêtait ou chez l'habitant ou sous les palmiers. Donc c'est une vallée très très belle. Le désert, quand je dis, c'est pas le désert de sable. C'est une vallée très cultivée, pleine de palmiers et de cultures. Et tout autour, il y a les montagnes, des petites montagnes de pierre et de la caillasse. Et nous, on marche dans la vallée. Donc c'est plat, c'est verdoyant, très très verdoyant. Il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de villages, mais c'est très 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 chaud. C'était 40-45 degrés la journée.
Derrière ce projet, une idée de faire un film. Comment t'es venue cette idée? Pourquoi faire un film sur cette aventure?
Alors ça m'est venu l'idée juste quelques mois après avoir eu l'idée de la marche. C'est l'idée de restituer et de partager. Ça, c'est une des idées. Je me suis dit, je ne peux pas garder que ça pour moi. Et la deuxième idée, c'est que ça a donné une autre, j'ai envie de dire grandeur, mais je ne sais pas si grandeur, c'est le mot. Une autre dimension, c'est ça le mot que je cherche. Ça a donné une autre dimension à mon périple où finalement, du coup, pendant deux mois, et puis bien sûr, des mois avant et des mois après, j'étais pas que maman ou épouse aussi, mais j'ai eu un vrai métier en fait. Et ça, pour moi, c'était une réalisation professionnelle. Je suis devenue réalisatrice et caméraman aussi. Et ça, j'ai adoré parce que c'est vrai que faire un film, quand on doit déjà marcher en solitaire avec trois enfants et qu'on n'a jamais tenu de caméra avant, ça peut paraître complètement fou, surtout s'il y en a qui sont dans le métier. Hein. Ils doivent vraiment bien comprendre de quoi je parle. Et ça veut dire que c'est beaucoup d'heures de travail en plus. Pour filmer le soir, pour dérocher, pour classer les cartes mémoire, pour tout ça. Mais en fait, moi, ça m'a vraiment nourrie parce qu'à ce moment-là, justement, j'étais pas que une maman. Parce que le film parle beaucoup de la maternité aussi. Et pour moi, maman, c'est un immense cadeau, c'est merveilleux, mais c'est beaucoup de moments difficiles aussi. Là, vous le voyez, ça se voit pendant la marche, mais en fait, moi, c'est ma vie au quotidien de maman, comme plein de mamans qui vont se reconnaître aussi. Et du coup, le fait que, bien sûr, j'étais pas que maman, j'étais aussi quelqu'un qui vivait son aventure, une aventurière, mais là, j'étais aussi réalisatrice. Et ça, c'était extraordinaire. Ça a vraiment été un moment dans ma vie où j'avais pas d'autres passions, occupations professionnelles. Donc pendant deux ans, en fait, c'est devenu ma profession, ma réalisation professionnelle. En plus, il y a eu un vrai succès à la clé, puisque ça aboutit. C'était un défi, je ne savais pas si vraiment le projet allait être acheté, s'il allait être monté. Et en fait, il a été dans des conditions que beaucoup de réalisateurs rêvent d'avoir, enfin extraordinaires, puisqu'il a été monté de manière très complètement professionnelle, avec une équipe de gens extraordinaires qui ont bossé sur le film. Il a pu être diffusé à la télé en prime time, et il est actuellement dans les festivals. Donc c'était... Et en fait, ce que je dois dire, c'est que on le voit dans le film, je suis obsédée par les dunes et par cette marche, tout en appréciant le chemin à chaque instant, mais j'étais en fait obsédée par le film de la même manière. Donc je ne connaissais personne dans le milieu, mais j'ai décidé que j'allais travailler avec ce producteur, ça s'est fait, enfin décidé, j'ai eu envie. Et j'étais obsédée comme ça, je me suis dit, il faut que ce film, ça doit se faire, il n'y a pas d'autre option possible, je ne peux pas expliquer ces choses-là, c'est comme pourquoi j'ai fait la marche, voilà, c'est parce que...
comme mais c'est incroyable, c'est hyper inspirant, parce que comme tu viens de l'expliquer ou de l'exprimer, tu n'avais aucune expérience dans ce milieu-là. Et c'est tout un milieu, tout un univers, le milieu de la télé, de la réalisation. Et pourtant, tu as prouvé qu'on peut être réalisateur et faire un film de qualité qui passe en télé, qui a été racheté derrière et qui continue à tourner derrière sur les festivals.
Oui, alors c'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'esthétique. Voilà, je suis assez esthète dans mon style. C'est important pour moi. Donc l'image, j'aime beaucoup l'image en fait. J'aime beaucoup, ma grande passion, c'est les couleurs hein, et tout ce qui est de la nature. Et donc ça c'était pour moi l'image, donc ça c'était un bon médium. Et puis j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien raconter les histoires, mon histoire, écouter les gens aussi. Et donc je crois que en fait quand on est passionné par un sujet, hein, et ben on apprend très très vite. Voilà. On va parler peut-être d'éducation après. Et ben voilà, c'est exactement ça. En fait, on peut pas nous obliger à, on peut jamais forcer les apprentissages. Mais je pense que tout le monde, là aussi, ben, les personnes qui écoutent, pensez, quand vous avez été passionné, ben, on a des ressources qui sont incroyables. On va veiller beaucoup plus tard le soir, on va se lever le matin, on va manger moins, on a vraiment une énergie qui nous nourrit en fait. Et on peut apprendre très très vite. Et donc moi, j'ai assimilé. Quelques semaines avant le départ, j'ai été formée donc, par le producteur et un réalisateur sur vraiment les bases de filmer, voilà, le trépied, le cadrage, les différents plans, les scènes de coupe, tout ça. Et en fait, j'ai vraiment avalé cette nourriture, absorbé ça, parce que je voulais tellement faire ce film que j'ai assimilé très très vite le minimum pour pouvoir tourner ces images. Qui restent quand même des images de vagabondes, mais effectivement d'une qualité suffisante pour faire un film avec bien sûr un travail après extraordinaire de...
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Cette notion d'avoir un rêve, de le vivre, de vouloir le réaliser, de le vivre avec passion, et c'est vrai que là toutes les portes s'ouvrent et on se découvre une énergie phénoménale et on se rend compte qu'on a des potentiels en nous qui nous permettent de presque tout faire si on est passionné.
C'est ça, c'est pour ça que c'est essentiel de oser être qui on est. Je sais pas pourquoi, mais la société, ou bien c'est un instinct de survie, d'un côté on a cette créativité, l'être humain, et d'un autre côté on a ces peurs et ces limitations qui viennent de la société. Et ça, ça nous dessert en fait. Parce que c'est ce que je disais avant, le plus dur, c'est d'oser dire aux autres. Voilà, moi, quand je suis partie, au bout du compte, au début, ben, tout le monde dans mes proches n'était pas du tout encourageant en fait. Et on n'a pas envie de faire de la peine à ses proches, mais on ne peut pas, on est obligé. Il faut vraiment assumer ça. Il faut assumer que, ben, il faut vivre nos rêves, même si dans notre entourage, on risque de blesser certaines personnes, même peut-être de se fâcher pendant un moment. C'est essentiel. Parce que quand on vit nos rêves, ça en inspire d'autres. Ouais, c'est ça ce qu'il faut dépasser. Et effectivement, on se rend compte qu'on a un potentiel à ce moment-là. Et quand on parle de rêve, n'importe lequel, même des tout petits, ils comptent vraiment. Juste de, je sais pas, même partir pour 2-3 jours. Et là, on parle d'aventure, mais ça peut être apprendre une autre langue, ça peut être changer de peinture dans sa maison. Il faut qu'on sorte de nos conditionnements, en fait. C'est prendre conscience de nos conditionnements et se rendre compte de qu'est-ce qui peut vraiment nous nourrir.
Donc réapprendre à s'écouter aussi, à comprendre ses besoins, savoir qui on est, et puis laisser parler cet enfant intérieur, cette intuition, cette petite voix qui est là, qui sait qui on est, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion de révéler.
Voilà, et bien savoir qui on est, je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'on n'est pas, quand on est, on n'a pas un mode d'emploi de soi-même. En fait, ça prend vraiment du temps de savoir que, ah, mais en fait, peut-être que ça, j'arrive pas le matin, mais j'arriverai à le faire le soir, qu'on n'a pas la même énergie le matin et le soir. Donc, on doit vraiment faire une enquête de soi-même. Ouais. C'est vraiment, vraiment important. Et au fur et à mesure, on commence à connaître des trucs qui marchent. Et du coup, c'est un cercle vertueux, c'est vraiment chouette. Ouais.
Aurélia, tu as fait une traversée de l'Atlas marocain en partant de Marrakech jusqu'au désert avec tes trois enfants, tes trois filles. Tu disais qu'il y a une grande place à la notion de maman, une maman, à l'éducation dans ton film. Qu'est-ce que c'est qu'une maman ?
Une maman ! Un grand bonjour à toutes les mamans. Une maman, elle est programmée pour naturellement donner beaucoup. Et elles le font toutes bien, toutes les mamans. Et à côté de ça, on est vraiment très dur avec nous-mêmes. On croit qu'on ne le fait pas jamais assez, on culpabilise vite, et on oublie en fait qu'on donne déjà beaucoup. Et du coup, ça fait un cocktail pas toujours facile pour les femmes, parce qu'on a aussi besoin de nous de moments pour se ressourcer. Il y en a qui le réalisent plus vite que d'autres. Moi, donc, comme je disais au début, j'ai beaucoup donné pour mes filles, et c'est à retardement que je me suis rendu compte que quand même, j'avais aussi besoin de tout ce temps pour moi. Donc les mamans, elles donnent énormément, et c'est important à nous d'apprendre en fait. C'est vraiment ça pour les femmes, je pense. Voilà, la femme sauvage. On doit vraiment pas oublier la connexion avec la femme sauvage. Et pour ça, c'est à nous aussi par rapport à nos maris, nos conjoints, nos amoureux, aux autres personnes qui nous entourent, aux autres femmes aussi, par rapport à nos enfants. C'est à nous et nous seuls en fait de faire ce chemin. De trouver néanmoins, de ne pas oublier les besoins de notre âme sauvage, c'est-à-dire de la femme sauvage, c'est-à-dire la créativité. En fait, il faut juste faire attention que dans la maternité, on n'oublie pas la créativité. De privilégier ces moments, ils sont autant importants que les autres. À un moment, il faut fermer toutes les portes, il faut s'enfermer, il faut se mettre les fesses sur une chaise ou mettre sa tenue de travail, et il faut s'y mettre, quoi, à peindre, à créer, tout ça, et il faut valoriser ça. Parce que la société, en fait, des fois, on a peur de montrer notre beauté aussi. Et ça, c'est fou. Et en fait, au contraire, ça nourrit les autres en fait. Il ne faut pas avoir peur de montrer sa beauté. Voilà. Et la petite citation que je dirais, la petite phrase, c'est qu'il ne faut jamais oublier que les affaires de cœur se traitent avec le cœur. et pas avec la tête. Donc on laisse notre mental de côté et toutes nos petites histoires de cœur, que ce soit amoureux ou juste relationnel, il faut juste toujours faire un petit peu de calme, laisser ces spéculations et ce bouillonnement mental s'apaiser et juste se souvenir que les affaires du cœur se traitent avec le cœur. Et je dédie cette phrase à mon amie Séverine.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.